Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, on est dans une émission un peu spéciale aujourd'hui. Moi et Enzo, on a couvert un panel en fin de semaine, un panel qui était sur... Le titre, c'était « Panel, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». C'était un panel qui se voulait avoir un regard croisé sur la condition féminine, sur le droit des femmes, notamment en commémoration sur la Journée internationale des droits des femmes qui s'est déroulée le 8 mars. On a fait, dans le cadre de cette activité-là, plusieurs entrevues. Deux entrevues, d'ailleurs, qui nous restent avec Gabriel Martin, linguiste, et Christine Labrie. Tout le monde connaît Christine Labrie, députée de Québec solidaire, députée de Sherbrooke. Christine Labrie, qui est tout le temps aussi sympathique à rencontrer et à parler, d'ailleurs. Un petit mot peut-être, Enzo.
Effectivement, puis c'était un regard croisé qui avait aussi un regard intersectionnel sur cette question-là, parce que ça parlait effectivement de l'émancipation des femmes, et c'était aussi organisé par l'association des Burkinabés de l'Estrie, donc ça avait aussi un regard sur les femmes, et donc les femmes issues de l'immigration, donc c'était vraiment intéressant, et c'est ça, nos deux intervenants, comme tu disais, Christine Labrie apporte un regard en tant que femme députée vraiment intéressant sur la question et sur sa position sur la question de l'émancipation des femmes. Puis aussi, comme tu disais, on a eu Gabriel Martin, donc qui est chercheur linguiste, qui a aussi eu un regard très intéressant qui parlait de la question sémantique et aussi donc de la question à travers ses recherches en linguistique et justement la place du discours. Par rapport à la question des femmes, c'est ce qu'il a pu apporter durant ce panel en tant que chercheur, donc en recherche linguistique. Donc c'est à la question du discours, à la question des mots et du rapport sémantique à la question des femmes. Donc c'était vraiment intéressant, effectivement. Donc on a pu leur poser tous les deux des questions par rapport aux deux perspectives qu'ils pouvaient apporter en tant que linguiste et en tant que député. Donc ouais, vraiment intéressant.
Oui, ça, on a eu beaucoup de plaisir. Donc on va vous partager ce plaisir de cette entrevue. Donc, je vous lance Christine Labrie en entrevue pendant 7 minutes. Donc, on est aujourd'hui, c'est ça, avec Christine Labrie, panéliste pour le regard croisé sur les droits de la femme ici et ailleurs. Bonjour Christine, ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, ça va super. Petite question, en fait, simplement d'entrée de jeu, comment vous avez trouvé, en fait, ce panel aujourd'hui? Comment ça a fait de participer à ça aujourd'hui?
Moi, j'apprécie toujours chaque occasion qu'on a de discuter des droits des femmes, de l'évolution des droits des femmes, notamment au Québec. Et ce que j'ai particulièrement aimé aujourd'hui, c'est que, d'abord, on avait pratiquement une cinquantaine de personnes présentes dans l'assistance, mais pour la première fois de ma vie où je participe à un panel comme ça, il y avait la moitié de l'assistance qui était des hommes. Vraiment, félicitations aux organisateurs. C'était beau à voir.
Oui, d'ailleurs, c'est ça. J'avais remarqué que vous aviez dit ça là, pendant vos présentations, mais pendant les discussions plutôt. Et j'étais vraiment surpris, en fait. Est-ce que c'est si surprenant que ça qu'il y ait une parité, mettons, homme-femme dans ces événements-là? Ou du moins de ceux que vous avez participé?
Très sincèrement, oui, c'est surprenant. J'ai participé à, ça se compte en dizaines, là, le nombre de panels concernant les femmes. Puis du moment qu'il y a « femmes » dans le titre de l'événement, en général, c'est rare qu'il y ait des hommes dans l'assistance ou alors ils sont quelques-uns, à moins que ce soit dans le cadre d'un cours obligatoire. Donc, je suis très impressionnée de ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait vraiment une belle diversité dans l'assistance. C'est un événement qui était organisé par l'Association Burkinabé de l'Estrie. Il y a eu beaucoup de personnes immigrantes, mais aussi plusieurs personnes qui n'étaient pas. Donc, vraiment très impressionnant.
Sinon, je ne sais pas si mon collègue Enzo, il y avait une petite question.
J'avais une petite question concernant tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il y a notamment eu la perspective de l'intersectionnalité. Il y a eu la perspective de la question de l'immigration et de la question de la femme par rapport à ça. Moi, je voulais savoir justement comment on pouvait, à travers un contexte politique ou bien même militant, enfin, comment peuvent s'organiser les luttes autour justement de regards et de luttes contre les oppressions qui seraient croisées, c'est-à-dire pour la question des femmes ou la question des femmes immigrantes au Québec, notamment.
Oui, mais on constate par exemple que non seulement les femmes sont plus plus fragiles sur le marché du travail, elles sont défavorisées au niveau économique. C'est encore plus vrai pour les femmes d'origine immigrante, pour les femmes racisées. Donc, c'est le genre de situation où on voit que l'intersectionnalité nous éclaire. On peut pas mettre toutes les femmes dans le même panier. Elles vivent des situations qui sont très différentes. C'est important de mettre ça en lumière parce que ça guide des politiques publiques qui vont être différentes. On n'agit pas de la même manière quand on réalise la complexité d'un enjeu. Donc oui, ça a été beaucoup discuté aujourd'hui. Puis ça l'est de plus en plus, heureusement, dans l'espace public. On développe cette compréhension-là que les femmes ne vivent pas toutes les mêmes réalités, que ce soit l'endroit où elles se trouvent sur le territoire du Québec, leur contexte socio-économique, leur statut conjugal, le fait qu'elles aient des enfants ou pas, leur origine, ça a un impact sur leur situation.
Merci beaucoup, Christine. Je voudrais reparler, en fait, tantôt, on a eu une question, justement, d'une personne du public qui a demandé la question, parce que, en fait, je vais vous faire répéter parce que j'avais trouvé, justement, son intervention et son questionnement super intéressant par rapport, justement, à ces enfants, des jeunes garçons qui avaient, justement, des idées masculinistes et qui, notamment, dû à la consommation par rapport des réseaux sociaux et ces choses-là. Et elle posait la question de qu'est-ce qu'elle pouvait faire, quelles étaient les actions, mettons, les programmes par rapport à ça. Fait que je vous repose un petit peu là, la même question au final.
Oui, effectivement, on a une maman d'ado dans la salle qui a nommé que même si elle élevait son fils avec les valeurs féministes à la maison, lui-même exprimait la peur de perdre des choses comme garçon, comme homme, à cause du mouvement féministe. Question très intéressante hein, parce que c'est une crainte qui est fréquente. C'est important de discuter de ça avec les garçons, avec les hommes qui expriment ces craintes-là. Il faut entendre leurs craintes, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont peur de perdre et pourquoi. Mais je pense que la discussion doit se poursuivre aussi à qu'est-ce qu'ils peuvent gagner avec le mouvement féministe parce que on parle de réduction des inégalités beaucoup, mais on pourrait parler aussi de transformer les stéréotypes de genre qui sont une forme de prison identitaire autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est important de challenger, revisiter un peu ces stéréotypes-là. Puis je pense que les hommes ont tout à gagner qu'on le fasse. Et donc, même si on voit davantage de femmes, par exemple, dénoncer les stéréotypes de genre qui limitent les possibilités des femmes, bien ça, c'est un combat dans lequel tout le monde a à gagner.
Merci encore là, pour la super question. Sinon, j'avais une petite question par rapport en tant que, justement, député de Québec solidaire, peut-être. Qu'est-ce que vous aviez à dire par rapport, mettons, selon l'angle de votre parti, justement, sur cette question-là de la Journée des droits des femmes? C'est ça, en fait.
Bien, nous, on véhicule plusieurs propositions dans l'espace public pour améliorer les conditions des femmes ou en tout cas réduire les inégalités, notamment la question de l'accessibilité à l'avortement qui n'est pas égale sur tout le territoire du Québec. Hein. Dans certaines régions, les femmes doivent parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir ce service-là. On a beaucoup mis de l'avant récemment la proposition de fournir les produits d'hygiène féminine. Certains pays ont commencé à le faire. Il est également question d'accès à la contraception gratuite. Ça, c'est une proposition qui mérite vraiment d'être entendue parce que ça coûte plus cher le coût de mettre fin aux grossesses non désirées est supérieur à ce que ça coûterait de rendre accessibles les produits contraceptifs gratuitement et sans même prendre en compte tous les enjeux au niveau de la vie personnelle et des situations délicates dans lesquelles ça place les femmes de vivre une grossesse non désirée. Simplement d'un point de vue purement économique, on aurait tout avantage à mettre en place cette mesure-là.
Parfait. Puis ben justement, là, pour pas vous retenir ben, même plus longtemps, j'aurais une question sur quel serait votre souhait, peut-être? Peut-être un souhait un peu général ou peut-être plus spécifique à vous en tant que personne, en tant que femme notamment?
Moi, je souhaiterais que les femmes se fassent plus confiance pour prendre leur place dans l'espace public, oui, en politique, mais quelle que soit la manière dont elles veulent influencer leur milieu, la politique, c'est pas la seule manière, j'aimerais les voir gagner confiance en elles. Souvent, les principaux obstacles à la participation publique des femmes, c'est les limites qu'on se met nous-mêmes dans nos têtes. Donc, faut être capable de se faire confiance. Puis des fois, quand on prend le temps d'exprimer nos doutes ou nos limites aux personnes qui nous entourent, on se rend compte rapidement qu'on exagère et puis qu'on a tout à fait notre place. Dans notre entourage, vous allez constater que les gens sont assez prompts à nous encourager puis à manifester même du soutien pour le faire.
Ben merci beaucoup, Christine. Je ne sais pas si mon collègue a une dernière question, mais c'est un super beau message d'espoir, je trouve. Puis c'est le même message d'ailleurs que vous avez fait dans le cours Famille politique avec Christine Labrie. Stéphanie. Stéphanie Lantier, qui est votre ancienne professeure, justement. Merci beaucoup, Christine. Oui, exact. Oui, très cohérente. Le message se tient. Puis c'est tout le temps des super, super plaisant de vous parler. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Donc, c'est la fin de cette entrevue. Je vais prendre un petit 30 secondes pour introduire, en fait, prochaine entrevue. Gabriel Martin, comme on a dit, linguiste, chercheur, et qui est capable de... qui prend le temps de nous expliquer comment, en tant qu'homme, en tant qu'allié féministe, on puisse contribuer, justement, à la cause... féministe. Je sais pas si mon collègue souhaitait rajouter quelque chose.
Non, comme je disais, je trouvais qu'il avait eu un regard intéressant en lien avec ses recherches justement en linguistique et la perspective.
Un côté plus théorique.
Un côté plus théorique par rapport à la perspective de la lutte pour l'émancipation des femmes. Donc j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et il parlait aussi que lutter pour l'émancipation des femmes, ça avait en fait des bienfaits pour les femmes, et ça c'est logique, mais ça avait des bienfaits aussi pour tout le monde, c'est ce qu'il avait pu apporter pendant le panel, notamment par rapport à la lutte en fait contre les stéréotypes de genre qui sont autant un poison pour la gente féminine que la gente masculine finalement. Donc c'était intéressant aussi qu'il apporte ce regard-là très critique envers les stéréotypes de genre, qui est une question que je trouve nécessaire et extrêmement importante. Donc ouais, très intéressant.
Donc on vous envoie ça, prenez le temps d'écouter, c'est super intéressant. Donc on est avec Gabriel Martin, linguiste et chercheur qui a étudié notamment à l'âge de flèche et qui a été panéliste aujourd'hui, le seul homme blanc justement présent à ce panel. Qu'est-ce que ça fait justement de pouvoir participer justement à un panel comme ça avec tant de diversité de personnes et d'opinions?
Ben, premièrement, je dirais que c'est un privilège d'avoir la parole puis de pouvoir exprimer nos perspectives, transmettre nos façons de voir, échanger avec les gens. Les gens, des fois, se questionnent qu'est-ce qu'un homme fait à cet endroit-là. Dans ce cas-là, je crois que les gens ont bien reçu puis ont vraiment vu que ça, quand on parle de diversité, ça peut parfois, c'est pas obligé, mais dans certains contextes, les hommes sont bienvenus, amènent une perspective. C'est ça, j'ai senti que ça a été très bien reçu. Moi, je me prends ça surtout en tant qu'allié féministe. Je suis un homme, mais je peux être féministe sans que ça me mette en danger. Puis même au contraire, là, je crois que les hommes aussi, on a beaucoup de choses à bénéficier de ça parce que le féminisme, essentiellement, c'est un idéalisme, une idée. C'est un idéal de justice, le féminisme. Ça sert tout le monde, là, les hommes y compris. Là. Ouais. Est-ce qu'on entend bien?
Ouais. Moi, j'avais une autre question qui peut paraître un peu vaste, mais je vais vous laisser centrer ma question par rapport aux perspectives que vous trouvez les plus intéressantes. Mais c'était par rapport à votre profession et de linguiste. Et je voulais savoir quelle perspective vous pouvez approcher par rapport à cette question-là, la question de la langue, de la sémantique et de tous les aspects que ça peut avoir et apporter par rapport à la question de la lutte contre les toutes les formes d'oppression, la lutte pour l'émancipation des femmes et toutes ces questions-là.
Ben, c'est une excellente question, puis c'est vrai qu'elle est très vaste parce que dès que ça concerne la langue, ça concerne les linguistes. On peut se questionner autant des questions sociales, des questions qu'on parle de l'écriture inclusive. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc le linguiste peut arriver, éclairer la question en disant, OK, pourquoi les gens sont contre? Pourquoi les gens sont pour? Examiner ça, faire des études rigoureuses, scientifiques sur la question. Après ça, qu'est-ce que ça représente pour les gens qui vont dire, mais moi, je me vois là-dedans, je me reconnais là-dedans. Qu'est-ce que ça représente? Donc, la linguistique fait ça. Ensuite, un linguiste peut arriver puis définir les termes, définir les concepts. Parce que parfois, on a des mots qu'on a l'impression ou on a un sentiment de connaître le sens, mais si on demande à quelqu'un, c'est quoi le féminisme? Ben, est-ce que c'est juste la lutte pour les droits des femmes ou ça peut être autre chose? Fait d'être capable de le définir et pas de le définir en disant, moi, je pars de mon opinion, là, en le définissant en ayant une méthode où on examine comment les gens l'utilisent pour bien décrire les mots. Puis un linguiste peut être vraiment utile. Des fois, il y a des mots ou des questions de sémantique, les gens vont débattre. Attends, les gens vont dire, ça, c'est raciste. Non, ça, c'est pas du racisme. OK, ben, le linguiste peut arriver puis dire, c'est quoi les définitions qu'on donne à racisme? Est-ce qu'il y a plus d'une définition qui existe? Des questions de même, les linguistes, je pense, peuvent être utiles. Donc, les luttes des femmes sont incluses là-dedans.
Merci.
Merci beaucoup, Gabriel, pour la question. J'en ai une dernière, en fait. À la toute fin, t'as dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment parlant. T'as invité les gens, en fait, à se questionner puis à laisser vivre leur individualité. Puis je voudrais que t'élabores un petit peu là-dessus. Parce que justement, moi, on est dans un monde où les opinions sont si polarisées où on est tous dans la confrontation. Et je trouvais que c'est un beau message d'espoir, justement, puis qui est une bonne façon, en fait, facile pour les gens de lutter d'une certaine façon, à leur façon.
Oui, tu le résumes très bien. Puis souvent, on va identifier la lutte à quelque chose de lourd, à une charge, à un poids, à un combat. C'est parfois ça. C'est parfois un combat. Mais si c'est simplement dire, ben moi, j'existe tel que je suis, puis moi, c'est beau comme je suis, tu sais, peu importe ma caractéristique, là, ben finalement, on se donne le droit de libre, on s'enlève un poids en faisant ça. Puis rien que ça, c'est une façon de combattre carrément, tu sais. C'est une façon d'exprimer son authenticité. C'est déjà beaucoup de travail, mais ça libère. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée. Puis le féminisme, moi, je crois, il y a plusieurs façons d'être féministe, là, mais je crois que c'est un mouvement qui appelle aux femmes à soyez qui vous êtes, vous avez le droit. T'sais. Fait que les hommes, on peut aussi aller chercher de même. T'sais, si moi, je suis un homme et que je regarde un film puis qu'il me fait pleurer, puis ça, je vous le dis, là, puis je le dis publiquement, je regarde des films, maintenant, des fois, je pleure. La première fois que j'ai fait ça, c'est comme personne ne me regarde. Parce que maintenant, je fais ça au cinéma, puis même si les gens, peut-être qu'il y en a qui pourraient dire, ah, c'est un gars, il pleure, ça me dérange pas. Ça me dérange même plus. T'sais. Puis c'est ça, ça te libère toi-même dans ton intériorité. Puis on est les gens intéressés. OK, il pleure, tu sais. L'autre fait, tu pleures. Ouais. Ça finit là. T'as changé les représentations bien plus qu'avec une grosse conférence ou une grosse théorie. Tu l'as vécu, finalement, tu sais. Je pense que quand on le vit, les gens le filent à quelque part, là.
Ben merci beaucoup Gabriel, puis merci pour cette perspective là aussi, parce que bah c'est vrai, ça prouve que l'oppression faite aux femmes à cause des stéréotypes de genre, en réalité, qui empêche les hommes de et les femmes d'accepter qu'ils peuvent être dans leur fond intérieur, touche en réalité les deux genres, implique et touche malheureusement beaucoup beaucoup plus les femmes, et c'est pour ça qu'on lutte, mais touche aussi les hommes par rapport aux stéréotypes.
J'ai envie d'ajouter quelque chose. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que je parle d'accueillir les gens, puis même d'accueillir les gens qu'on peut trouver sexistes, qu'on peut, si on arrive puis on dit toi t'es sexiste, change d'opinion, on n'est pas dans l'accueil. On peut ne pas être d'accord avec, on peut dire, hey, je suis pas d'accord avec toi. T'sais, à un moment, on n'a pas le même avis. Mais tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Si on fait ça, là, l'autre déjà, il se sent plus libre. Puis plutôt qu'essayer de nous convaincre qu'on est con parce qu'on est. Ben non, il va. Peut-être qu'il peut avoir un début de dialogue. T'sais. Fait que quand je parle d'accueil, c'est ça aussi. Puis ça, je pense que chose qu'il faut qu'on réapprenne à notre époque polarisée. Là. Accueillir les gens qui nous dérangent des fois puis qui nous choquent, mais c'est faisable. Honnêtement, c'est très possible. Là. Ça veut pas dire qu'on endosse son opinion. Là.
Ben merci beaucoup. Et effectivement, nous qui avons cette conscience-là, c'est aussi à nous de faire ce travail-là, d'éducation finalement, effectivement. Mais merci beaucoup, Gabriel. Merci pour votre apport au panel. Merci pour vos réponses et belle journée à vous.
Merci. Donc, c'est ce qui conclut l'entrevue avec Gabriel Martin, linguiste et chercheur, je suis pas sûr, en tout cas, qui fait de la recherche à l'université. Chercheur. petit lapsus, un petit pet de cerveau, mettons.